forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC, Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Louis Amar.
Bonsoir à tous, l'after en direct sur RMC Sport News, bienvenue, on est ensemble jusqu'à minuit, on vous attend pour débattre sur le hashtag RMC Live au 32-16 et sur Direct Studio via l'appli gratuite RMC Sport pour revenir notamment sur la victoire du PSG ce soir 2-0 face à Strasbourg et sur la sortie sur blessure de Neymar, le PSG qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle rapidement les autres résultats du soir, la victoire de Dijon 6-3 à Saint-Etienne, celle de Croix au tir au but, club de National 2 contre Marignane, le succès de Rennes 2-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire, celui d'Orléans 3-2 à Bergerac, de Caen 6-0 à Viry-Châtillon. Et puis il y avait un match de Ligue 1 également ce soir, un match en retard de la 20e journée de Ligue 1 entre Nîmes et Angers, victoire des Nîmois 3-0. Pour débattre avec vous ce soir, Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis, bienvenue Louis pour ta première. Daniel. On espère vraiment que ça va bien se passer pour toi,
C'est pas sûr. Je vous ai écouté hier soir et évidemment, je m'attends au pire. Bonsoir Jérôme Rotten.
Non, bonsoir à tous, bonsoir
ça
Louis.
Dépend de toi en même temps.
Félicitations déjà parce que c'est un honneur pour toi de présenter l'after et d'être surtout avec nous là.
D'être avec toi surtout.
Non, avec nous deux parce que on tient la boutique hein, tient la baraque hein. Donc Gilbert regarde, il s'en va, on va même pas le voir. Normalement, tu dois bien le remplacer.
En Coupe de France, il en tout cas dans la peur, vous le savez, le plus important sont les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
3 points de débat, on commence avec les tiens, Daniel.
Je mets de côté le match de cet après-midi qui était complètement dingue et dont on reparlera, le Saint-Étienne-Dijon. Les autres sont plus anecdotiques, donc on va rester sur le match de ce soir. La victoire du PSG, ni poussive, ni allez, on va dire guerre passionnante. Évidemment, la blessure de Neymar, c'est mon point 2 parce qu'il y a des motifs d'inquiétude. Je crois pas que ce soit la cheville. Moi, après, je suis pas médecin, mais entre cheville et métatarse, c'est une différence. C'est le pied et la cheville, c'est pas pareil. Donc il y a quand même pas mal de motifs d'inquiétude. Et le troisième point, c'est est-ce qu'on prend une douche quand on ne joue que 30 secondes et qu'il fait très froid et qu'on n'a pas touché le ballon?
Voilà. Ressé Rodriguez qui est entré en jeu pour la première fois.
C'est un vrai débat, je pense qu'on a besoin de l'avis de tous. Est-ce que toi Jérôme, dans pareil cas, tu t'aurais pris une douche ou direct tu t'habilles?
Je pense que franchement, je pense que je l'aurais mal pris.
C'est vrai, tu aurais mal pris de rentrer comme ça sur la fin?
Je pense que je peux.
Même si ça fait 2 ans que tu joues pas.
Ah ouais, même. Bon, mais quitte à ne plus jouer de toute façon, parce qu'on le reverra pas. En plus, avec un numéro 16, franchement,
oui,
vaut mieux
pas
rentrer.
C'est ce que tu dis.
Attends. Je plaisante sur le point 3, mon vrai point 3. C'est l'intérêt que je porte à cette guerre commerciale que se livrent le Barça et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a pris une bonne claque aujourd'hui. Ouais. Dans le business, hein, le foot, c'est aussi un business. Et dans le business, on peut prendre des claques. Le PSG en a pris une belle cet après-midi. Voilà. C'est mon troisième point.
Avec la signature de Frankie de Jong annoncée par le Barça, le jeune international néerlandais qui rejoindra la Catalogne le 1er juillet prochain. On en parle avec Fred Hermel tout à l'heure. Jérôme, tais-toi, point de débat.
Bah, écoute, le premier, donc sur le match du soir, j'ai vu un Paris très concentré sur la première mi-temps avec de l'intensité. Ils ont pris ce match au sérieux et vraiment cette défaite contre Guingamp en Coupe de la Ligue, même s'il apparaissait pour les Parisiens pas importante, ça s'est vu qu'il y a eu une remise en question et qu'ils voulaient absolument se qualifier déjà ce soir. Mon deuxième point, comme Daniel, ça serait sur la blessure de Neymar parce que mine de rien, je disais que ça allait faire les titres des journaux demain et nos émissions, mais c'est très important de savoir ce qu'il va avoir pour le match de Manchester. Et mon troisième point, je voulais revenir sur le joueur de Croix tout à l'heure, même si j'étais un peu long là, de Croix qu'on a fait, qui a pris un carton
Pierre
rouge,
Derville.
Pierre Derville, pour dire que par rapport à ce qu'il nous a dit, que les arbitres ont vraiment décidément, pour certains, je veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais aucune psychologie.
On rappelle d'un mot ce qui s'est passé, hein, c'était lors de la séance de tir au but entre Croix et Marignane. Pierre Derville qui marque son tir au but, qui va un peu chambrer le public parce qu'il s'était fait siffler pendant le match et qui a pris un carton rouge direct. Messieurs, c'est donc ma première dans l'after. Est-ce que vous m'autorisez
à donner mes trois.
Ah ben, on les attend.
C'est surtout là-dessus que tu vas être jugé.
C'est ouais, ça.
Vas-y.
Alors, je vais commencer par Paris. Paris sérieux. Paris qui a fait un match digne de son niveau. Ça n'a pas été forcément flamboyant, mais notamment en première période. Il y a eu du pressing, il y a eu de l'intensité. Et c'est sans doute la moindre des choses qu'on puisse s'attendre de
ce PSG. C'est le même point que moi.
Ouais, c'est le moindre point que vous.
C'est
pour
moyen.
L'instant, je prends pas trop de risques.
C'est moyen.
Deuxième point, Cavani. Cavani que j'ai trouvé bon ce soir, dont j'ai trouvé qu'il faisait presque des progrès techniquement. Il y a eu deux gestes techniques sympas, une petite talonnade, une ouverture à un moment. J'ai l'impression qu'il commence vraiment à retrouver sa place dans cette équipe après un début de saison un peu souffreteux. Mm-hmm. Et puis mon dernier point, c'est Matsels, le gardien strasbourgeois. On en a parlé un peu pendant le match, mais sinon on n'en parle pas beaucoup de ce gardien. Il a fait beaucoup d'exploits en première période et il a maintenu Strasbourg dans le match.
C'est pas mal.
6/10.
6/10.
Ouais, parce que
c'est
tu t'es focalisé sur le match du soir. Alors ouais. C'est vrai que c'est bien d'aller chercher ailleurs aussi. Alors t'as peut-être pas eu le temps. Mais c'est pas mal. C'est pas
mal. Rigolo qui me donne la moyenne alors là. Je suis tout ému. On commence l'analyse de ce PSG Strasbourg. Qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Yacine, supporter du PSG, est avec nous. Il a composé le 32-16. Salut Yacine.
Oui.
Salut Yacine.
Yacine est avec
Salut Yacine.
Yacine, qu'est-ce que t'as pensé de ce match?
Globalement, plutôt une prestation assez aboutie, un match sérieux. J'avais une petite pensée pour mon père qui a fait un petit AVC, supporter de Lyon, qui aimait le beau football, qui aimait bien Strasbourg, et qui disait sur Neymar, il y a peu de temps, qui disait il faudrait qu'il épure son jeu. Et cette position numéro 10 lui convenait bien. Et il trouvait qu'il était plus efficace dans ce rôle-là. Et j'ai trouvé que c'était... prenez le jeu à son compte. J'ai regretté qu'il prenne les coups, de nombreux coups. J'espère que c'est pas trop grave, mais en tout cas, ça n'incite pas à l'optimisme. Mais bon, on va croiser les doigts. Il y a toujours un peu d'espoir. Globalement, ce que j'ai aimé, c'est la mentalité, c'est le sérieux. On sent la patte tourelle là-dessus. Il y a aucun souci. Après, parler tactique, je sais pas si ça vaut réellement le coup. C'est pas là-dessus qu'on va juger Paris. On va plutôt les juger sur la mentalité.
T'as raison Yacine, parce que de toute façon, ces matchs-là, c'est toujours un petit peu les mêmes. En fait, il y a une seule équipe qui joue. L'autre, elle essaye de temps en temps, si elle peut, de se créer des occasions en sortant. Ça dépend toujours en fait de l'intensité que va pouvoir mettre le PSG.
Je me permets de te couper.
Oui.
Mon père qui aimait beaucoup regarder la Serie A, qui aimait beaucoup Naples, et qui m'a dit Yacine, j'espère que vous allez prendre Alan. Donc j'espère Nasser.
Mais deux choses sur Alan, c'est 80 millions, première chose, là Paris a pas les moyens, et deuxième chose, Aurelio De Laurentiis, le président napolitain qui était à Paris hier, on l'a rencontré au micro de Mélanie Ferreira, il a expliqué clairement qu'Alan ne partirait pas cet hiver, donc ça franchement on oublie.
Ouais, on va attendre de voir, parce qu'on
sait qu'il toute dit, façon,
machin, il y a aussi inclus une affaire de sponsoring là-dedans,
ça sert pas à grand chose de spéculer, ce qu'il
moi,
faut...
J'ai regardé un peu l'interview de De Laurentiis, un gros passage. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Il m'a dit, on a des bonnes relations, maintenant, s'ils mettent le fric. Voilà. On va dire que la porte n'était pas vraiment close. Maintenant, et ce qui serait bien en tout cas, je me permets, il faut faire deux joueurs. Un seul, ça ne suffira pas. Paredes, c'est un très bon choix.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça, Yacine, qu'il faut. Ne spéculons pas sur qui va venir, parce qu'on voit bien comment ça se passe. Et parfois, t'es sur un dossier à fond, tu crois qu'il est fait. On parlera tout à l'heure du cas de Young.
Jackpot, monsieur, dame, pour Alan Paredes, et ça fera oublier. l'épisode de Young, qu'il aille au Barça pour 100 millions ou 96, j'en sais rien.
Alors,
et puis,
voilà, on verra bien qui va venir. Pour l'instant, ce qui est surtout important, c'est que un joueur vienne très vite. Parce que sur le match de ce soir, comme je disais, il n'y a pas grand-chose à tirer, si ce n'est, en tout cas, d'un point de vue tactique, s'il faut regarder juste un truc, c'est que Tuchel a l'air de... dans les solutions qu'il veut trouver pour son milieu de terrain, qui a un vrai problème, il a envie d'insister, de voir ce que ça peut donner Dani Alves dans cette position-là. Il a dit qu'il y croyait. Maintenant, le faire contre Strasbourg ou en Ligue 1 et se retrouver à cette place à Old Trafford, ce sera le jour et la nuit. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il l'a remis là ce soir. On l'avait déjà vu à ce poste-là. Il l'a remis. Va-t-il continuer? Je pense que oui, dimanche. Contre Rennes au Parc, parce que s'il a envie de voir, il va lui falloir le voir 3, 4, 5 fois de suite pour au moins l'installer et le faire à ces automatismes-là. Est-ce que Dani Alves est capable? techniquement il est capable de faire des passes vers l'avant, ça
oui,
c'est certain.
Sûr, c'est sur la durée,
est-ce qu'il est
oui,
capable de renouveler les efforts sur les efforts? C'est non, son état de forme qui Daniel, va le déterminer, parce que ça on n'est pas vraiment sûr.
Daniel, on est, il va pas changer son style de jeu aujourd'hui. Dani Alves, il sera jamais, il aura jamais les cannes comme il pouvait avoir il y a quelques années.
C'est certain. Donc, c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il a
dans ce rôle-là, tu le sais
après,
déjà, tu le sais déjà.
Non mais, si je peux me permettre.
Non mais, ce que je veux te dire, c'est que. Moi, on peut spéculer, bien sûr qu'il peut jouer. En effet, Daniel, il le disait, il peut jouer contre Strasbourg à ce rythme-là, à domicile, quand le PSG va être maître du jeu. Mais quand le PSG va se retrouver, et par moment, en deuxième mi-temps, vous avez noté, quand Strasbourg a été mieux, que le PSG faisait moins d'efforts, moins d'intensité, bah Strasbourg, ils ont commencé à jouer. Alors, ils sont pas créés bon nombre d'occasions.
Pendant 90 minutes, non, c'est
non,
pas
non.
possible.
Non, c'est pas ça.
C'est pas ça
que je veux dire. C'est que dès que le niveau s'élève et qu'il y a un peu plus de pression, et ben là, je suis désolé, mais Draxler, qui est un super joueur de ballon, et moi, je suis le premier à le défendre, mais à ce poste-là, avec Dani Alves, mais c'est impossible
on
au plus haut niveau.
Peut-être qu'ils joueront à 3, mais peut-être qu'ils joueront avec Alves, Marquinhos et Draxler, et 3 devant. Mais là, aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est déjà qui devant, parce que Neymar, on va avoir un doute jusqu'au 12 février. Maintenant, il risque peut-être de carrément ne plus jouer d'ici ce soir-là. Donc, il y a là d'un coup, et c'est souvent le problème du PSG avant les matchs fatidiques, c'est que d'un coup, il y a plein de problèmes qui arrivent sur le bureau de l'entraîneur. Et là, Tuchel, effectivement, il va falloir qu'il gère le milieu de terrain, il va falloir qu'il gère... c'est pas lui directement qui va le gérer, mais il va falloir qu'il s'adapte à l'éventuelle blessure de Neymar. Effectivement, derrière ce match contre Strasbourg totalement anecdotique et qu'on oubliera dès demain matin, il y a déjà un tas de questions qui se posent pour ce PSG.
Il y a un match qui sera important dans l'optique du huitième de finale à Manchester, c'est le match à Lyon qui se déroulera tout début février. C'est peut-être là la seule occasion pour Thomas Tuchel de mettre un 11 type, de vraiment tester son équipe.
Ça pourrait ressembler à une sorte de répétition parce qu'il n'aura pas d'ici là une adversité aussi forte que celle du Groupama Stadium. Donc oui, ce soir-là, on verra ce qu'il fera au milieu de terrain, c'est vrai. Ouais, ça... À sa place, oui, je m'en servirais comme une répétition.
Et puis c'est une aubaine pour le PSG d'avoir ce match-là
bien
avant.
Sûr.
Alors après, on ne sait jamais comment il va se dérouler ce match, parce que Lyon aussi a un match très important de Ligue des Champions.
Oui, mais une semaine plus tard.
Oui, mais c'est plus tard.
Oui, mais
c'est plus tard quand même.
Oui, mais c'est plus tard, donc c'est peut-être pour ça aussi que Lyon, ils ont encore le temps, si tu veux, te préparer. Et comment t'abordes le match contre PSG? Est-ce que tu mets beaucoup de rythme? Est-ce que tu les attends? Si t'as une équipe qui essaye de moins mettre d'intensité, forcément, ça donne pas un match spectaculaire, comme par exemple on a pu voir dimanche soir sur le derby, parce qu'il faut deux équipes qui ont envie de mettre du rythme, envie d'aller de l'avant, envie de gagner le match. Donc ça, on le sait pas. Ce qui est sûr, c'est que si Neymar venait à ne plus jouer avant ce match de Manchester, et au pire ne pas jouer ce match de Manchester, là c'est problématique par rapport à ce que Thomas Tuchel il a mis depuis le début de saison en place. Là il faut changer beaucoup de choses.
Après Jérôme, on n'en est pas encore là, mais au cas où tu t'adaptes, il y a un match aller et trois semaines après il y a un retour où tu récupères du monde, ou tu le sais pas, tu perds peut-être d'autres mecs, enfin à chaque fois de toute façon c'est une adaptation à des événements, tu dois pas, le monde ne doit pas s'écrouler, tu dois être capable de trouver une autre formule, même si effectivement il te manque ton meilleur joueur.
C'est pour ça, pour finir là-dessus, que moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui se dit. Même Daniel il dit il faut absolument un milieu de terrain. Bien sûr que
absolument c'est mieux s'il y en a un. Aujourd'hui, c'est un peu le désert au milieu.
Moi ce qui me dérange, outre le cas Paredes, que c'est pas un joueur que je connais parfaitement, donc je vais pas me mouiller à trop raconter de trucs
c'est
sur
comment
lui.
Comment le mec arrive, il s'inclut dans l'effectif, il s'adapte au jeu.
Donc c'est compliqué.
Déjà là, t'es dans la prise de risque déjà.
Déjà. Mercato d'hiver, c'est souvent un mercato pour essayer
réajuster.
Exactement. Donc c'est rarement un mercato, surtout pour ces équipes-là, pour vraiment te renforcer et t'apporter un plus, parce qu'il y a le temps d'adaptation, parce qu'il y a un championnat que ces joueurs-là vont découvrir et qui est pas facile, et surtout un effectif qui est en place depuis bon nombre de mois et les mecs se connaissent parfaitement.
Mais de toute façon, tu tireras pas à Ultraform avec deux milieux. Genre Marquinhos, Draxler, t'es obligé de le renforcer quand même.
Ou alors tu joues à 3 derrière. Non, mais si tu joues à 3 derrière, tu peux mettre Marquinhos.
Tu le renforcer.
Juste des infos RMC Sport aujourd'hui
milieu,
concernant cette recherche du milieu
un peu
de terrain.
Plus solide,
une nouvelle piste qui apparaît. Vous retrouvez évidemment toutes les infos sur rmcsport.fr. C'est un nom qui avait déjà été évoqué cet été.
Renato Sanchez. Oui, enfin,
absolument.
De toute façon, ils peuvent ouvrir toutes les pistes de la terre. À un moment, il va falloir juste qu'ils mettent des signatures, parce que là, c'est
Renato Sanchez. Expliquez-moi. Alors, par contre, je vais peut-être faire une fixette sur lui. Mais la fameuse pépite portugaise qui était annoncée comme un des meilleurs joueurs du monde.
On l'a revu années. Plutôt pas non, mal après.
On l'a revu, ouais. Bon, il s'est jamais vraiment imposé. Si c'est une telle
pépite. De toute façon, là, il cherche du pansement, là. Ouais. Il faut qu'ils aient des mecs au milieu, qu'il ait des formules. Sauf que il faut qu'il ait du monde à l'entraînement pour Tuchel, pour se dire, tiens, lui, c'est mieux que ça. Et puis, ça se trouve, ce sera Dani Alves au milieu.
Voilà. Le pansement pour juste préparer ce huitième de finale contre Manchester.
Ça a pas marché l'année dernière avec l'Asdira. Le pansement, ça, c'est sûr.
Ouais.
Ah, on a essayé. Ils ont essayé de faire ça. Ça n'a pas marché.
Tu vas prendre un joueur à 40 millions ou à 50 millions, à 60 millions pour être un petit pansement et que ça soit un boulet au mois
de juin. Quoi que fasse le PSG sur le marché aujourd'hui, c'est 30, c'est 40, c'est 50 millions. C'est comme
non,
ça.
Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est de, en effet, de servir
toi,
comme ça.
Toi, t'abandonnerais, tu prendrais personne?
De pansement. Non, parce que pour moi, il y a des joueurs qui peuvent vraiment te faire avancer l'équipe.
Oui, mais
cette année peut-être
non,
pas.
Non, mais joue aux dirigeants. Est-ce que tu prends un mec ou pas?
Moi
là maintenant, tu t'appelles Antero Henrique, est-ce que avec Tuchel, dis OK, on prend personne ou OK,
déjà,
on prend un
si
mec.
Je m'appelle Antero Henrique, j'ai fait du job.
Non mais arrête Jérôme.
6 mois joue. Et les joueurs
non, on s'en fout.
Non mais d'accord,
moi,
nous,
là maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais?
Ah mais moi je prends un joueur.
Mais
je prends pas forcément un joueur comme ça qui est sorti du chapeau et tu dis "Oh tiens, il y a une opportunité." Alain, par exemple, ça me plaît.
Mais oui, mais Alain, c'est trop cher, Jérôme.
Eh ben oui. Mais attends, il faut savoir. Moi, le PSG, je veux qu'il soit renforcé. Je veux que tu sentes l'arrivée d'un joueur et que tu dises, ah ouais, lui, il va s'imposer.
Oui, t'es bien placé.
Franchement.
Il faut des sortes de compléments.
Vous me prenez Gueye. Vous me prenez Paredes. Vous me prenez Renato Sanchez. Non, mais franchement.
Bah alors, donc, Gueye, tu prends ou pas?
Gueye, tu disais oui tout à l'heure.
Gueye, tu prends ou tu prends pas? Demain, il est à l'aéroport. Tu vas le chercher ou pas?
Gueye, ouais.
Ok, oui.
Okay. Je prends.
Paredes, tu connais
mais
pas assez, tu vas pas.
Assez, donc okay. Pas voilà,
Alan, t'as pas l'oseille. Il reste à l'aéroport et il repart en taxi.
Ben moi, il est là. Tu peux même pas lui payer avant le retour.
Tu lui payes même pas son G7.
Il est là. Si le fait de prendre Gueye m'empêche, au pire, parce que le fair play financier, il est encore là, m'empêche de prendre Alan, même au mois de juin ou au mois de juillet, je prends pas de joueur et j'attends le mois de juin ou au mois de juillet. Pour me renforcer. Ah,
ça veut dire que je voulais aussi, que tu explicites ta
et
pensée.
Et ça veut dire aussi que tu tires d'une certaine manière un trait sur tes ambitions en Ligue des Champions.
Mais quelle ambition? L'ambition
de la gagner ou d'aller en Ligue.
Il faut que tu joues, écoute.
Franchement, il faut arrêter le délire. C'est parce que tu vas prendre Gueye, Paredes ou Renato Sanchez que là tu vas dire, putain, on va gagner avec les champions.
Ça, en revanche, je suis d'accord avec toi.
Mais non. Mais les gars, si tu prends Gueye ou Paredes, ça veut dire que ça te permet d'avoir un Verratti Marquinhos au top en Ligue des Champions. Pas qu'il se fatigue sur les matchs championnats avant ou après.
Mais en quoi ils vont se fatiguer? Parce que si le PSG a autant de points d'avance, c'est qu'ils peuvent tomber dans cette gestion.
Non, franchement, ils peuvent faire tourner, Louis. C'est bon. Tu vas pas crever dans les matchs de championnat. Tu vas pas les user, tes mecs. Tu peux les faire tourner avec qui tu veux.
J'ai quelque chose pour vous, ça va vous plaire. Nicolas est avec nous, supporter du PSG au 32-7.
Attends, Yacine est parti?
Bonsoir Louis, bonsoir Jérôme.
Yacine, il est encore avec nous.
Non, mais je voulais juste le saluer et lui souhaiter du courage dans l'épreuve qu'il traverse.
Exactement.
Voilà. Il avait l'air ému, donc je l'embrasse avant qu'il reparte.
Alan, ce serait super.
Merci Yacine, à bientôt. Nicolas, dis-nous ce que tu veux nous dire, parce que là, je pense que Daniel et Jérôme vont bondir.
Oui, tout d'abord, bonsoir messieurs, encore une fois.
Salut Nico.
Salut Nico.
En préambule, j'aimerais souligner quand même l'ovation du virage Auteuil pour Salah. Je pense qu'on est tous touchés par ce qui est arrivé à ce joueur et au club. Et j'ai trouvé ça plutôt beau. Mm-hmm. Même dans tous les stades en Coupe à Caen aussi, j'ai vu qu'il y avait eu un hommage.
Ouais.
Et donc voilà, je voudrais le souligner tout d'abord. Ensuite, suite à l'actualité d'aujourd'hui au transfert de De Jong à Barcelone, la première réflexion qui m'est venue, c'est Rabiot va prolonger à Paris. C'est un peu la première réflexion que j'ai eue. Et je me dis que finalement, au lieu de chercher ailleurs, est-ce que finalement, alors est-ce que c'est bien ou mal, c'est un autre débat. Mais je pense que ça peut être un élément déclencheur pour le fait qu'il prolonge. Et, alors je suis pas dans le milieu, mais je.
Est-ce que c'est envisageable?
Non mais. Moi, je vais te poser une question, Nicolas. Ok, d'accord, au pire, t'as raison, c'est une solution. Est-ce que aujourd'hui le fait de prolonger Rabiot te donne en effet la certitude d'avoir une équipe cohérente et que même sans Verratti, eh ben Rabiot t'apporte ça, de la stabilité, tu deviens solide, parce que moi je regarde les derniers mois de Rabiot et les derniers gros matchs de Rabiot, franchement il faut remonter loin.
Mais tu sais, tu parles de certitude, mais quelle équipe du top 8 européen a des certitudes?
Ah bon? Au milieu de terrain?
Non, non, mais je te parle en général, parce qu'il faut mais, bien plus qu'un milieu de terrain pour la gagner.
Non, mais tu gagnes.
Jérôme, ouais. Je suis d'accord avec toi, mais attends deux minutes. On dit souvent, nous en France, on est vachement critiques sur nos équipes, ouais. Mais on mettait la Juventus de Turin en avant sur un piédestal disant que c'était l'effectif le plus solide. Mourinho, il est arrivé avec une équipe qui était où ça tournait pas rond, il aura fait un match de traquenard, ils sont allés gagner là-bas, et puis tout le monde a dit, ah ben oui, finalement, la Juve, ils sont prenables. Lyon,
je sais pas qui est ce tout le monde, mais certainement pas moi. Alors là,
moi, j'étais pas là, mais je l'ai pas
entendu. Ce vieux match de poule braqué, ne veut rien dire pour moi. Tu peux toujours faire ça dans le foot, ça peut arriver. Mais ça a pas affaibli la Juve et le fait que, bien plus, je comprends pas bien où tu veux en venir, en fait, le fait.
Absolument. À l'heure actuelle, quand on parle des faiblesses du PSG au milieu, on a raison d'en parler, mais il n'y a aucune équipe en Europe, quand on parle de certitude, et il n'y en aura jamais. Il n'y a aucune équipe, quand tu arrives en quart de finale de Ligue des Champions, qui a les certitudes à gagner.
Mais on est d'accord. Je préfère aborder des matchs à élimination directe, des gros matchs de huitième de finale, ou voire de quart de finale, mais on va parler du huitième parce qu'ils ne sont pas encore passés, avec des joueurs qui ont des repères européens et qui t'apportent depuis de longs mois du poids et de la présence et du talent. Je suis désolé, moi, quand je vois Adrien Rabiot sur, allez, je vais te dire, les seuls matchs de Ligue des Champions importants qu'il a joué cette année, c'était des matchs de poule. Je me souviens de l'attitude d'Adrien Rabiot et la qualité de son match. Il n'est pas le seul à Liverpool, par exemple. Et que je me souviens de la qualité des matchs du Paris Saint-Germain à Naples, contre Liverpool à domicile et à l'Étoile Rouge de Belgrade, où c'est des matchs références pour le club en termes d'état d'esprit. Je parle même pas de qualité de jeu, hein. En termes d'état d'esprit et d'être conquérant et de gagner les matchs et de vouloir enfoncer l'adversaire, ça s'est fait sans Adrien Rabiot.
Et toi, c'est pas un hasard, c'est ça que tu veux dire?
Mais c'est Pierre Ducrot qui disait justement à votre antenne et qui disait que c'est pas à l'hiver que tu peux espérer prendre un milieu. C'est parce que, encore une fois, cet été, on est passé au travers. Bon, parce qu'il y a eu des raisons avec le cercle financier, mais sur le choix des milieux de terrain qu'on devait recruter, parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et c'est lui qui l'avait souligné sur votre antenne, il avait raison. C'est-à-dire que, qu'importe le milieu de terrain que tu prendras au mercato d'hiver, parce que tu en prendras forcément un ou deux, parce que tu vas être obligé de te renforcer, ouais. Et c'est justement à ce moment-là que tu peux faire une connerie, parce que tu mets 50 millions
sur un
Doucouré ou tout ça, et il avait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'importe le joueur qu'on prendra au mercato d'hiver, on n'aura aucune certitude. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à la rigueur, il vaut mieux que tu prolonges Rabiot et que tu le vendes cet été ou dans deux ans, et tu te dis finalement il est au club, t'as pas de temps d'adaptation, et qu'en plus tu peux te dire que Draxler revient bien, quand on voit les matchs qu'il fait, même encore ce soir, mais ça peut être également une solution, que d'aller mettre 50 millions sur un joueur.
Ouais, mais bon, de toute façon, ça, là, c'est des spéculations, parce que s'il avait voulu prolonger Rabiot pour essayer de être revendu au mois de juin, absolument. Il l'aurait déjà fait. On sait très bien pourquoi il veut
prolonger. Pour l'instant, Rabiot, il a servi de pion au Barça, et ça a permis au Barça de berner le PSG.
Et voilà, justement, merci
pour
Nicolas d'avoir
il a
été
servi
avec
à
nous.
Ça surtout.
Merci Nicolas d'avoir été avec nous, à très vite dans l'after. Salut, on vous attend évidemment au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio via l'appli gratuite RMC Sport. Justement, Daniel, dans un instant, on reparle du Barça, de Rabiot, de Francky de Jong avec Fred Hermel. Le Barça qui vient de s'incliner en quart de finale aller de la Coupe du Roi 2-0 à Séville. L'after se poursuit en direct sur RMC et sur RMC Sport News. À tout de suite.
RMC Football Show. L'afterfoot, Louis Hamard.
23h27 sur RMC, Sport News. L'after est là en direct jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotel et avec vous au 32-16 sur le hashtag RMC Live et sur Direct Studio. Tout de suite l'Espagne avec Fred Hermel. Hola Chico.
Hola Chicos.
Ça va Fredo?
Bah très bien, j'ai une bonne nouvelle pour les Lyonnais.
Ah.
Bah le Barça est battable.
Oui mais c'est une mauvaise nouvelle pour les Lyonnais, il n'y avait pas Messi.
Il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas Busquets. Sur le banc,
il y avait Boateng.
Oui, à chaque fois qu'ils ont du mal, le Barça, il faut toujours regarder la colonne des absents. Quand même. Parce que la dernière fois, c'était la même. Tu te souviens, t'étais venu, Fred, et je crois que le Barça avait perdu. C'était contre qui qu'ils avaient perdu?
C'était il y a 15 jours, Valence contre Levante. Ils avaient perdu 2-1, mais en se raccrochant grâce à un penalty
par Denis
Suarez à la dernière minute. Mais là, après, c'est Séville quand même. Bon, on sait que Séville est une très bonne équipe, mais le Barça Barça a pas
qui était un peu moins
tout.
Bien quand même en ce moment, non?
Ouais, bah hein? Ouais, et puis qui ont pris 2-0 à Bernabéu dimanche, donc ça faisait 3 matchs sans gagner et 3 matchs sans marquer, et là ils ont vraiment fait un bon match avec un très bon beignet d'air et un Barça très décevant. Alors moi je suis un grand défenseur de Clément Lenglet, que je trouve un je pense que ça va être
Lenglet, ils disent comme ça là-bas ou pas? Lenglet.
Lenglet. Et là il se fait manger dans son dos par Ben Yedder pour le deuxième but, il l'a pas vu arriver quoi, et au deuxième poteau Ben Yedder marquait le deuxième but de Séville. 2-0, c'est pas mal pour aller au Barça.
Et le match retour va être génial, hein.
Bah oui, mais ça veut dire quoi?
Après, il y a pas le compte, le but.
Ça veut dire que le Barça doit jouer au complet s'ils veulent passer pour faire un gros match.
Eh ben voilà. Parce que,
t'as vu quand tu poses des questions un peu quand même, hein?
Ben c'est ça, ben oui, mais tu vois. Mais c'est exactement ça.
Moi, je suis l'élève au premier rang, qu'est-ce que tu crois?
Ouais. Pas à côté de la fenêtre et du radiateur quand même.
Ah non, là, en l'occurrence, tu jouais le maître, là. C'était le maître d'école. Moi, j'étais au premier rang. Tu me donnes une image à la fin.
Tu
me donnes une image de Florentino Pérez à la fin.
Signé, si tu veux. Non, encore mieux. Une photo dédicacée de Karim Benzema.
Ah, ok, d'accord.
En fait, on a senti que le Barça, quand même, c'est un peu le syndrome d'il y a 15 jours à Valence contre les Levante, en disant, on finira bien par marquer un but et on réglera ça la deuxième dans l'heure du match retour. Mais non, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Et l'Anglais, donc, n'a pas été bon du tout. Piqué a fait une grosse connerie sur le premier but de Valence marqué par Sanabria, de Séville par Sanabria. Voilà. Le Barça a besoin de Suarez est rentré en fin de match, il n'a pas fait grand chose. Alba est rentré en fin de match. Bon, Busquets et Messi étaient restés à Barcelone. Et puis on a vu les débuts de Boateng quand même. Boateng, il arrive hier, il a été titulaire ce soir. Quoi. Ouais, et donc bien, parce qu'on se posait quand même la question dans l'after en se disant, voilà, il peut jouer à plusieurs postes, mais comme annoncé, il est bien remplacé.
Bah oui,
il est bien remplaçant.
Bah,
Il est bien remplaçant de Suarez.
Même la ligne de Fred Hermel aime pas le Barça.
Et il est donc remplaçant de Suarez.
C'est énorme.
Oui.
Ouais, incroyable.
Ouais, il a parlé du Barça plus de 5 minutes, il a tout fait péter.
Exactement, terminé. La connexion, quand même. Connexion est coupée.
Il y a Florentino qui était sur la ligne, il fait.
Mais qu'est-ce que ça? Fred Hermel, tu parles du Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Il te coupe la ligne.
Allô? Fini.
Fred, on va le retrouver dans une seconde.
De séjour à Bernabéu pendant un mois.
Oui, exactement. Juste,
faut qu'il revienne, là. Faut qu'on parle du Monopoly.
Ouais, parce que l'actu au Barça, mais d'abord, on va vous entendre, vous, messieurs, là-dessus. C'est intéressant également.
Ouais.
L'actu au Barça, bien entendu, c'est cette défaite en quart de finale aller de la Coupe du Roi à Séville. Mais c'est surtout la signature de Frankie de Jong qui a été officialisée cet après-midi.
Allô?
75 millions. Re-hola, Fred Hermel.
Ouais, Fred, on a commencé
plus
à parler.
Millions. Non, mais simplement pour terminer là-dessus, ce que je disais, si vous ne laissez pas terminer la phrase, il est bienvenu
ta ligne a coupé, il est marrant lui.
Mais oui, il est bienvenu pour remplacer Luis Suarez à son poste, puisque on sait bien que Boateng n'est pas un vrai numéro 9 et qu'on l'a vu parfois en milieu de relayeur. Donc ce soir, le Barça a clairement affiché qu'il était venu pour ça, pour faire souffler un couteau dans Luis Suarez, puisqu'il a été aligné au poste du numéro 9 et que il a été remplacé à l'heure de jeu en fin de match par Luis Suarez. Donc c'est bien quelqu'un qui est là.
C'est bien la doublure. C'est la doublure.
Une doublure, voilà. Donc on pouvait se poser des questions parce que c'est quand même étonnant que Kevin Prince-Boateng, qui est quand même pas un vrai numéro 9, soit à ce poste-là. Bah, le Barça considère qu'il pourrait être utile. Il fait pas un bon match du tout ce soir. Mais bon. Il est arrivé hier, on va pas le critiquer.
Bon, avant les vrais sujets.
Allez, De Jong, Fred, on y va. C'est ça le dossier important du jour. Le Barça qui a donc officialisé la signature du milieu de terrain néerlandais cet après-midi.
Alors c'est 75 millions plus 11 en variable, donc ça peut faire 86 millions. Mm-hmm. Ce qu'on appelle variable ici, c'est bonus, comme on dit en France, variables en espagnol.
Ouais.
C'est un très gros coût, alors il va pas arriver maintenant. Hein.
Avec un très très gros salaire. Hein.
Ouais, ça peut monter avec les primes jusqu'à 16 millions nets après impôts par an.
C'est très très important quand même.
C'est très important, et ça veut dire quoi?
Là au Monopoly, ils ont pris Avenue Foch là.
Bah, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport au fair play financier qui dans le cadre du Barça ne concerne que la masse salariale, puisque le Barça étant une association peut pas avoir ce problème de financement extérieur puisque il doit produire lui-même son argent.
Au niveau pour la masse salariale, c'est costaud quand même.
Bah, ça veut dire quoi? Déjà, à mon avis, je pense que Rabiot peut pas venir.
Oui, enfin bon là, ils ont pris Avenue Foch, tu penses bien que rue Lecourbe, ça les intéresse plus maintenant.
Une vision un peu française des choses.
Je me suis
laissé entendre dire
c'est les petits marrons
et
les
agents blagues,
que ça avait été un petit peu compliqué dans les négociations entre le Barça et Véronique Rabiot, c'est que le salaire demandé était énorme. Bon, là il est évident que le Barça de toute façon dépasse les 500 millions de salaire à dépenser à verser tous les ans. Donc c'est compliqué. Donc oui, là, mais, ça veut
pardon,
dire ça.
Fred, mais c'est, au-delà, c'est au-delà, super, de, au-delà du salaire, super, au-delà des sous, pardon, mais super cool. Rakitic, Busquets, Coutinho, Arthur, non, De Jong, à quel moment il joue?
Oui, mais ils avaient besoin. Non, mais Rabiot, c'est mort. Oublions Rabiot. Maintenant, c'est Rabiot, c'est il est à la corbeille.
Il a quel âge, De Jong?
Pour le Barça, c'était le renouvellement. Ce qui s'est passé dans cette affaire, un jeu de business, donc tu as le Monopoly avec communication, je te fais des promesses, je te fais pas de promesses. À l'arrivée, le PSG se retrouve quand même le nez dans la farine sur cette affaire-là. De Jong avait commencé d'abord par dire c'est le Barça ma priorité parce que c'est le club où j'ai toujours voulu aller machin. Le PSG est venu derrière en faisant jouer Mbappé qui connaît De Jong machin, enfin bref, dans ces cas-là tu uses un peu de tous les arguments possibles, et le PSG en plus a immédiatement dit qu'ils étaient prêts à mettre tout l'argent du transfert et un gros salaire. Derrière, le Barça est revenu et a proposé carrément bingo au niveau du salaire plus des bonus. Je sais pas si le PSG s'alignait sur ses bonus, mais à la limite peu importe, il y a eu surenchère. Moi je trouve que il y a pas grand chose, enfin comment dire, pas grand chose à dire. Si, que entre le Barça et le PSG, il y a, on le sait, une sorte de contentieux maintenant, une sorte de guerre des nerfs. Que le PSG, sur ce coup-là, en tout cas, clairement, on peut pas dire autre chose que il perde cette partie. Maintenant, le PSG a qu'à se retourner et à trouver d'autres joueurs. Mais le Barça a besoin de Jong, c'est un joueur qui est parfait pour le style Barça. Ils ont besoin de se renouveler parce que Rakitic commence à être usé, Busquets commence à être usé. Coutinho, mine de rien, c'est pas,
ça marche pas si bien.
Acclimaté au Barça. Non. Et d'ailleurs, qui dit que par le biais de Neymar et de la filière Brésil, le PSG se positionne pas sur lui, même s'il a une clause énorme, mais le Barça peut-être serait pas contre le faire partir pour moins. Oui, mais voilà, c'est le Monopoly. Ils se sont fait avoir sur cette transaction là. Ils essaieront d'en faire d'autres, mais celle-là a été clairement remportée par le Barça. Il y a aucun problème à le dire, ça, ouais.
Côté Barça, c'est l'Ajax, c'est un Néerlandais. Enfin voilà, c'est une.
Non, mais il y a des liens indéniables.
C'est tellement évident,
bien sûr,
dans l'histoire, dans la logique du Barça, que voilà, c'est. Et je pense que le joueur, au-delà de l'argent, parce que ça se joue quoi, à 1 million, à 2 millions de salaire, 3 millions en plus.
Non, le salaire, c'est beaucoup. Paris avait pas du tout prévu ce genre d'ordre de grandeur. Même au Barça, c'est rare beaucoup. Historiquement qu'un joueur qui débarque se mette dans la grille des salaires 1 au Barça.
Surtout,
tu sais, ils ont leur grille. Au Barça, ils ont leur grille 1, 2, 3, machin.
Non, il y a hors catégorie Messi. C'est 50 millions par an.
Mais si
c'est
à part.
Et puis après, t'as, voilà.
Voilà. Non, mais là, il s'est mis dans la catégorie, tu sais, de là où aurait été à l'époque Iniesta, Xabi. C'est très rare qu'un mec, quand il arrive, il se mette direct là.
Alors, je vais te dire, Iniesta, Xabi, ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent vers la fin. D'ailleurs, Iniesta faisait un peu la gueule parce que, il était dans la Suarez Neymar, quoi.
Oui, mais attends, ils sont aussi arrivés, Xabi, Iniesta, dans une période avant l'inflation des salaires.
Non, mais il y a un problème en Espagne. En général, les Cantelados, les joueurs formés mettent souvent beaucoup plus de temps à gagner.
Ça, c'est un peu partout comme ça.
Y a pas Espagne, c'est normal, parce que quand tu veux faire venir un joueur, tu
peux en parler.
C'est
pour ça. Non, mais c'est vrai que quand tu es formé dans un club, que tu fais tes preuves, que tu deviens un joueur.
Oui, d'ailleurs, c'est là-dessus que Rabiot faisait la gueule.
C'est très bien.
Parce qu'il n'était pas aligné.
Que tu te fais avoir. Et que souvent, là, ils n'avaient pas le choix sur De Jong d'augmenter s'ils le voulaient.
Maintenant, ça va être compliqué de leur fourguer, Rabiot, mine de rien, là, maintenant.
Ah bah c'est lui qui va se refourguer tout seul, hein, puisqu'il sera plus
grand. Là il est quand même parti pour être là jusqu'en juin.
Le problème c'est qu'il va peut-être revoir ses exigences.
Ouais, mais comme Tottenham c'était pas assez bien pour lui déjà.
C'est ce que je te dis. Je pense que là, Hicham, supporter du Barça, qui est avec nous, il a composé le 32-16. Salut Hicham.
Hola chicos.
Hola chicos. Ah, ça c'est un gars.
Ça te plaît. Hicham, tu voulais parler du président.
Très joli prénom.
Il en reste encore. Bartomeu.
Oui, alors déjà, ouais, donc déjà, bon, je vais le féliciter pour ce transfert quand même, parce que ça fait partie des rares choses de bien qu'il a fait depuis qu'il est à la tête du club. Et surtout, ouais, je pense que c'était vraiment une revanche par rapport à l'avis des sanctions, puisque rappelez-vous, l'année dernière, il avait annoncé, c'était un secret positionnel, que Griezmann allait venir au Barça dès janvier, et il a très mal pris le fait que Griezmann soit de volte-face et les partent à l'Atlético Madrid, et depuis il s'est fait pas mal critiquer, et c'est en voyant l'accord qu'aurait eu De Jong avec le PSG qui s'est réveillé, qui a balancé le paquet, et sinon ouais, très belle recrue, surtout avec Rakitic notamment qui commence à peiner un peu. Et surtout, ouais, il va y avoir un gros dégraissage au niveau du milieu l'année prochaine. Donc c'est une très très belle recrue pour le Barça.
Alors pour par rapport à Bartomeu, alors c'est un président qui est souvent critiqué. Là, tu as raison, il a pris son avion, il est allé là-bas, c'est, il a vraiment fait le boulot, quoi. Et c'est vrai, après, sur Griezmann, oui, enfin, Griezmann, c'était quasiment fait, quoi, à 99%. Et c'est vrai que le Barça, il croyait à mort, il pouvait croire à mort. Griezmann a changé d'avis pendant l'hiver et au début du printemps. Donc voilà, ça a été un mauvais coup, mais c'est Griezmann qui a décidé à la fin. Voilà, donc
comme dans le cas de Jong, hein, il y a deux semaines, c'était fait au PSG et puis au dernier moment, tant que c'est pas signé, tu peux toujours recevoir un coup de fil.
Exactement. Et, ouais, et puis un truc émotionnel.
Et il s'agit même pas d'avoir bonne ou mauvaise info, parce que même le président en personne peut te dire c'est bon, c'est bouclé. Mais tant que le dernier coup de fil a pas eu lieu, la surenchère est possible. Et puis voilà. Ouais.
Ouais. Merci Hicham d'être avec nous.
Et c'est de plus en plus comme ça d'ailleurs.
Merci.
De plus en plus comme ça.
Hicham, à bientôt.
Mais, mais pour une raison très simple, c'est que avant, tu avais très peu de clubs qui avaient les moyens de se taper, de se payer
des grands
joueurs. Aujourd'hui, c'est tellement réparti, notamment avec l'Angleterre. C'est-à-dire qu'avant, enfin, les 2-3 qui étaient au-dessus du lot, maintenant, avec tout l'argent qu'il y a là-bas, même un club moyen peut décider de mettre beaucoup d'argent sur un grand joueur d'avenir et de faire une équipe autour de lui.
Là, maintenant, De Jong, il allait forcément dans un club qui visait la Ligue des Champions.
Sauf que De Jong ne serait pas allé dans un club moyen, dans tous les cas.
Non, non. Mais non, mais bon, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clubs en Europe qui ont de l'argent. Avant, quand tu disais qui va dépenser beaucoup d'argent, bah, t'en avais pas 36 quand même. Aujourd'hui,
non, mais c'est surtout, il y avait ça, et puis il y avait surtout avant où tu te disais, bon, bah, écoute, quand t'es un jeune joueur, t'as plus de chances d'aller dans certains clubs pour aller loin et gagner la Ligue des Champions. C'est le Graal pour n'importe quel footballeur. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui aujourd'hui peuvent espérer gagner la Ligue des Champions.
Ouais, enfin les 5 dernières,
quatre
Madrid.
Non, mais on est d'accord.
Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour taquiner. D'accord. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus aujourd'hui.
Stop. On va au Parc des Princes. La conférence de presse de Thierry Laurel, entraîneur de Strasbourg, en direct après l'élimination. Il parle de Neymar.
Ah bah oui, surtout lui.
Ben, quand on fait le pass du dos, alors que c'est inutile, contre Guingamp, je voyais pas trop l'intérêt.
En gros, il dit qu'il cherche.
Il se moquait un peu. Moi, j'ai vu pas mal de joueurs à Paris, hors Neymar, jouer facilement quand ils menaient 5-0. Mais quand ils étaient à 0-0, ils ne chambraient pas comme ça. D'accord ? Donc, je sais bien que Paris, c'est les paillettes. Hein, je veux bien que Paris, c'est un peu de la luxure. Je veux bien tout ce que vous voulez. Mais respectez un peu les gens qui triment aussi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et je suis d'accord avec Fonsalves. Je confirme que je suis d'accord avec lui. Et j'ai rien contre Neymar, qui continue à faire ça, il n'y a pas de problème. Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon, faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Hein. Peut-être ça choquera au Brésil, mais faites attention quand même.
Thierry Laurel, en direct, comment depuis le Parc des Princes, coup de gueule, ça nous laisse sans voix, complètement sans voix, le coup de gueule de Thierry Laurel.
Après, franchement, on est habitué, lui, il est souvent comme ça, sanguin, il réagit à chaud.
On rappelle Neymar sorti sur blessure
maintenant,
après torsion.
Le problème, c'est que ça va jusqu'où, parce que moi, je veux bien comprendre ce qu'il dit.
Bah oui.
Moi, j'ai souvent reproché à Neymar effectivement, de parfois en faire trop, d'être dans la provoque et tout. Mais alors quoi, dans ces cas-là, c'est quoi? Ça justifie qu'on le blesse?
Exactement, c'est ça.
Ce que fait le 7, dont j'ai oublié le nom, d'essayer, dans la même action, trois fois de le déglinguer, mais pas qu'un petit peu, vraiment de le découper. Mais moi, je lui mets rouge direct. Ce que fait ce joueur, c'est stupide.
Et Thierry Loret te dit, il dit, il s'agit pas de durcir le jeu, il s'agit de se faire respecter.
Mais,
voilà l'argument
de
Thierry Loret. Mais là, par la violence, en l'occurrence.
Moi, je suis le premier. Moi, j'ai été le premier à dire quand Neymar en faisait trop, quand il sautait trop, quand il roulait trop et tout. Mais si tu dis, il faut le soulever parce qu'il provoque et tout, après, en fait, tu sais plus où tu mets la barrière. Parce que, dans ces cas-là, tu justifies le gars qui va aller le blesser.
Ouais.
C'est inadmissible ce qu'il dit. Ce qu'il dit est non seulement inadmissible, mais d'une stupidité sans nom.
Limite,
c'est très grave.
Limite dangereux.
Bien sûr, parce que tu peux inciter le mec à aller le blesser.
Et ouais.
Nous, on en a rien à foutre si son numéro 7, qui est un tocard, se blesse pendant 4 mois. C'est absurde.
Non, mais
c'est absurde ce qu'il dit.
C'est vrai que c'est absurde. Là, je te rejoins, Daniel. Et en plus, où c'est encore plus absurde, c'est qu'il dit, il chambre. Alors oui, il chambre. Mais beaucoup de footballeurs chambrent, hein. Je te rassure. Quand tu te sens très à l'aise techniquement, souvent on te reproche un petit peu de fantaisie. Mais moi, tout ce que j'ai vu de Neymar, c'est de la fantaisie mais efficace. Il a fait un sombrero arrêté au d'un moment. Derrière, ça s'est fini par une frappe juste à côté. Il a fait, en effet.
Messieurs Tourelle en direct. Ouais. Sur Neymar, en direct du Parc des Princes.
On donne des nouvelles de Ney, mais il est inquiet, et Ney est inquiet parce que c'est le même pied, même pied encore, ouais. Le même pied 3, et le même en 3. Et pour ça, mais on doit attendre.
Est-ce que vous voyez comment il se fait mal exactement, à quel moment? Est-ce que c'est un coup? Est-ce qu'il se tord? On voit pas bien à quel moment.
Oui, c'était la situation avec le trafaut dans une situation et l'arbitre, il ne souffle. C'est quoi? Souffle. Donc, il ne sifflait pas. Et c'est le deuxième et le troisième, et après ça, il a.
Il
s'est tordu le biais. Et voilà. C'était la situation, et maintenant, comme je dis, je n'ai pas parlé avec lui parce qu'il est dans l'hôpital en ce moment.
Oui.
Conférence de presse de Thomas Tuchel en direct du Parc des Princes après la sortie sur blessure de Neymar. C'est Gonçalves, hein, le joueur.
Non, mais moi je voulais juste finir
plusieurs fois des coups au Ney durant le match.
Moi, je voulais juste finir. Donc voilà, je te disais, quand il fait une passe du dos, il lui reproche sur le match d'avant d'avoir fait une passe du dos.
Alors donc déjà, il va se mêler des matchs d'avant.
Ouais.
Donc en fait, il va venger au nom
Daniel,
du petit.
Daniel,
c'est stupide.
Daniel, il a joué au football. D'accord. Il a joué au football.
C'est bien la preuve que parfois il faut pas avoir été sur le terrain pour être intelligent.
Non, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il se rend compte du niveau technique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réaliser une passe du dos qui est cohérente, hein? Donc au bout d'un moment, il faut qu'il arrête son délire. Là, je crois que en fait, à travers sa déclaration aujourd'hui, Thierry Loret, alors moi je veux bien qu'il fasse des très bons résultats, qu'on en parle en bien et on le dit à chaque fois, il fait un énorme travail. Je pense qu'il pète un petit peu un câble, il pète même par moment un petit peu plus haut que ce... Et que là, c'est une honte de dire pour le football français.
Bien sûr. Je vais t'expliquer pourquoi il est totalement absurde et que tous les gens qui écoutent comprennent. Si le mec qui provoque, et encore une fois, moi Neymar, il m'est arrivé, machin, donc ça veut dire... Cristiano Ronaldo, quand il marque un but, qui regarde le public et qui fait genre « je suis chez moi », ça justifie, comme il chambre quand il fait ça, ça peut être assimilé à du chambrage, que l'équipe qui a pris le but à domicile, il se fasse découper un quart d'heure après. Ça justifie que Fekir, quand il montre le maillot à Saint-Etienne,
il est en versement de terrain.
Que genre, la semaine d'après, j'en sais rien moi, ailleurs, tiens, il a voulu faire le mariole, on va le découper. Ouais. Ou si c'est pas la fin du match quand il fait ça avec le maillot, sur l'action d'après, un Stéphanois vient, il lui casse le genou. Mais enfin, après, est-ce que tu te rends compte de l'absurdité de Thierry Loret, de sa bêtise?
Daniel, on va pas rentrer dans les attaques personnelles non plus.
Non, moi je rentre dans l'attaque personnelle.
Il dit son propos
est d'une bêtise sans nom.
Sous le coup de la colère.
Il est totalement posé.
Critique, mais ne disons pas que Thierry Loret est bête, ça n'a rien à voir.
Excuse-moi,
moi je dis que son propos est d'une bêtise sans nom.
Son propos, d'accord.
Je pourrais lui dire à lui s'il est là.
Il est pas.
Oui, je sais bien.
Tout le monde est même. Moi, parce que.
Non, mais je sais pas s'il se rend compte de ce qui justifie dans tous les autres matchs, dans tous les buteurs qui font des signes genre c'est fou ce que je viens de faire quand il te secoue les doigts autour de l'oreille. Donc tu vas te faire déglinguer un quart d'heure après parce que tu nous as trompé.
Mais on conclut là.
En fait, il n'y a plus de limite dans ces cas-là.
Il y a juste un truc. Il y a des joueurs qui mettent le championnat de France tout là-haut, comme jamais il a été. Il en fait partie. Peut-être un des seuls. On a la chance en Ligue 1.
L'oreille bouffe grâce au PSG et au club important de la Ligue 1, grâce à ses résultats, Daniel.
Non, mais
les droits télé, c'est 80% de son budget, 70% peut-être. Il bouffe grâce à ça. Je lui demande pas de se coucher devant le PSG. Je lui demande de pas dire ce genre de conneries graves. C'est-à-dire qu'il justifie l'agression d'un joueur un joueur.
On termine là.
C'est ça qui est grave.
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ça me choque. Très moins que ça soit pas un ancien mec de terrain. Lui, Thierry Loret, c'est un ancien joueur, un très bon joueur qu'il a été. Aujourd'hui, il est éducateur, il est entraîneur. Il y a des discours à pas tenir sur l'agressivité, sur les fautes. Il mérite ça parce qu'il fait ça. Non, c'est pas comme ça. Le football, ça a jamais été comme ça. Et juste pour mettre encore en avant, en étant un peu plus calme que Daniel, ce que je veux dire, c'est que Neymar, il a mis le championnat de France là-haut comme jamais il a été. Un joueur comme ça, on doit pas le bichonner parce que qu'il prenne des coups, c'est normal, c'est son jeu.
Ah, mais moi, mais je après, veux même pas qu'il après, soit bichonné. Moi, je veux pas que les mecs baissent la tête devant lui. Je veux qu'on joue normal.
Il faut qu'on
n'ait pas qu'on justifie si le mec se fait découper.
Moi, juste pour finir, je te dis, bien sûr qu'il chambre. Mais c'est chambré comme il le fait avec ces gestes-là sur le terrain, sur un match officiel, moi je dis chapeau. Parce que moi je suis un grand chambreur, j'ai été un grand chambreur, sur le terrain ça m'arrivait de chambrer, mais j'aurais jamais pu faire autant de gestes de classe qu'il fait pour chambrer.
Allez, voilà, 23h48 sur RMC Sport News, dans un instant l'after.
Non mais l'oreille va être content que tu sois pas à Manchester, tellement il est bête.
C'est pas sûr. Allez, à tout de suite.
C'est dingue.
RMC Football Show, l'afterfoot, Louis Amar.
23h51 sur RMC Sport News. L'after est là pour encore quelques minutes en direct avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo et avec Fred Hermel. Fred Hermel, on parlait du transfert de Frankie de Jong au Barça, oui, qui ferme peut-être une porte pour Adrien Rabiot, mais je crois que tu as des informations là-dessus. Il n'y a pas que l'arrivée de Jong qui lui aurait fermé les portes.
Non, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'on parle du salaire, les dirigeants du Barça ont filtré l'information comme quoi les négociations avec Frédéric Rabiot n'étaient pas faciles. Voilà. Et que ça peut être une des raisons pour lesquelles ça va être compliqué que Rabiot vienne au FC Barcelone. Même si, vous savez, moi j'ai vu tellement de retournements de situation. Mais voilà.
Mais concrètement, pas facile, ça veut dire quoi, Fredo?
C'est compliqué de discuter avec l'agent d'Adrien Rabiot.
Mais sur quoi? Sur du salaire? Sur des garanties salaire,
de voilà, sur des petites exigences de salaire, etc.
On le sait bien.
Et voilà. Et parce que je pense que Rabiot, enfin, faut voir, c'est pas une star en Espagne, quand même, hein.
C'est une star nulle part, tu sais.
Ben ouais, donc,
un peu chez lui, quand
peut-être
même.
Pas forcément avoir des exigences de star quand tu frappes à la porte du Barça, quoi. Donc, ce que je dis là n'est pas un secret. Ça a été intelligemment et très, très bien diffusé, en externe, par en dessous, par les dirigeants du Barça. En gros, le Barça a voulu faire comprendre pourquoi Rabiot a du mal à venir au Barça. Voilà. Alors, j'ai pas dit que c'était
exact. Je pense que c'est un peu cramé, de toute façon.
Mais ça va être compliqué avec l'histoire de De Jong, je vois pas. Et cette histoire, j'insiste, de la masse salariale par rapport au fair play financier, il va falloir dégraisser. Donc, Rabiot, s'il signe, c'est un gros salaire aussi. Donc, non, ça va être très, 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 très compliqué à ce niveau-là, quoi. Mais, la question est là. C'est-à-dire que quand on est, en dehors, on joue avec la réserve, on s'entraîne avec la réserve, etc., je suis pas sûr qu'on soit en position de force pour négocier avec des clubs qui sont des mastodontes du football mondial.
Oui, parce que là, on parle du Barça, mais en fait, le problème peut se poser avec n'importe quel grand club du continent, finalement, Jérôme.
Bien sûr, bah
oui. Oui, mais bon, après les clubs, ils attendent pas de savoir de rentrer en discussion avec Rabiot, parce que là, aujourd'hui, il s'entraîne avec la réserve. En effet, s'entraîner avec la réserve, c'est pas très glorieux pour lui.
Mais t'es pas en position de force, quand même, pour poser ta star.
Mais je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus, parce que s'il a décidé de ne pas prolonger, c'est qu'il se sentait en position de force avec certains clubs. Alors, on sait peut-être pas tout aussi sur les discussions, et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Je pense que s'il en est arrivé à prendre cette décision-là de ne pas prolonger avec le PSG, c'est qu'il avait bien avancé avec certains clubs. Et que là, il a négocié comme un joueur important, qui peut être important dans un club comme le Barça ou un club comme en Angleterre ou en Allemagne.
Six mois s'entraîner sans compétition, c'est énorme.
Oui,
comment tu fais pour trouver ta place dès le mois de juillet dans un grand club? Je pense que je l'ai connu.
C'était plus sur la fin de carrière, mais je l'ai connu et il suffit d'avoir. Il suffit. C'est dur, mais t'as une conscience professionnelle, tu t'accroches et tu sais ce que tu.
On est d'accord.
Tu mets en place.
Mais tu sais mieux que quiconque ici à l'antenne. Le meilleur entraînement du monde, ça vaut pas un quart d'heure de match.
Mais sur 2 mois de préparation dans un club, ça peut suffire pour retrouver l'intégralité de ton ta qualité physique et de ton talent. Donc ça c'est pas problématique pour la suite de la carrière de Rabiot. Ce qui est plus problématique, c'est qu'en effet, oui, là aujourd'hui, le Barça lui préfère un joueur comme De Jong, qu'ils ont fait les efforts, des gros efforts pour l'avoir, et que pendant ce temps-là, Adrien Rabiot il attend. Et ça, c'est plus problématique par rapport à sa relation avec le Barça. Après, peut-être qu'il a avancé avec d'autres clubs et qu'on ne le sait pas,
bien sûr.
Demain il va signer au Bayern Munich ou en Angleterre, j'en sais rien. Je lui souhaite en tout cas de trouver une issue à cette situation, parce que plus le temps avance, et ça le dessert un peu quand même.
Merci Fredo d'avoir été avec
nous. Merci les amis.
Ciao, à très vite.
Adios.
Sur RMC et évidemment dans l'after. Juste avant de terminer, je vous donne deux, trois infos du jour comme ça, dont une qui est arrivée ce soir. C'est officiel pour Gonzalo Higuain, qui est prêté jusqu'à la fin de la saison à Chelsea, prêté par la Juve après une demi-saison un peu ratée au Milan malgré de bons débuts. Daniel, bonne affaire, Higuain à Chelsea pour les Blues?
Alors là, très franchement, comment sera Higuain? Est-ce qu'il sera en forme? Pas en forme. Il est loin quand même de ce qu'il semblait être à la Juve, et à Milan ça s'est pas super bien passé. C'est une toute nouvelle découverte et il retrouve un coach qui en tout cas le connaît très bien, avec qui il s'entend bien.
Jérôme, toi,
et en plus une place quasi assurée s'il n'y avait pas de neuf.
Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les deux. Là, c'est très clair. Higuain avait besoin de se relancer, d'avoir un nouveau challenge, peut-être connaître un autre championnat, et parce que tu te sentais pas à Milan très heureux déjà sur le terrain, et ça se ressent. Sarri en avait absolument besoin par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Il le connaît parfaitement, il a brillé sous Sarri, donc ça c'est déjà un profil. Ça veut dire que les deux s'entendent très bien, et que quand t'as une relation particulière avec ton entraîneur, le côté affectif il joue, t'as plus tendance à te faire mal et à essayer d'améliorer les choses personnelles pour que le collectif en ressort. Et il va quand même jouer avec, côté gauche, à sa gauche, un certain Eden Hazard, et à sa droite Willian.
C'est pas mal.
C'est bien.
Bah, je pense
et là
que...
pour le coup, il pourra remettre il adore le vrai 4-3-3, mais avec mecs qui sont dans des vraies positions, parce que là il le bricolait un peu son 4-3.
Il le bricole.
Là, il peut vraiment le faire.
Et puis en un mot, deux autres infos du jour. D'abord Johan Gourcuff qui résilie son contrat avec Dijon. Il avait pu jouer depuis le 20 octobre, il a joué 8 matchs de championnat, aucun titulaire.
Il a résilié avec le foot depuis 2010.
Hein. Exactement, résilié avec le foot. Donc je crois que tu as tout dit. Et puis cette affaire entre Sète et Lille. Lille a éliminé Sète hier en 16e de finale de la Coupe de France, victoire 1-0, jusqu'ici pas de problème, mais vous savez que la règle veut que le club pro laisse la recette au club amateur. Et bien Lille ne l'a pas fait. Lille est reparti avec moins de 10 000 euros.
Dans son droit.
8 000 balles. Ouais. Oui, c'est dans son droit, mais c'est dans son droit d'être classe aussi, non, Jérôme?
Attends.
8 000 balles, c'est peut-être les notes de resto de Gérard Lopez sur une semaine.
Mais vous pensez quand même pas que Lille pouvait le laisser, et je pense que entre l'accueil, ce qui s'est passé pendant le match, ça a été un petit peu chaud quand même, un petit peu beaucoup même. Et il y a des fois, quand l'équipe professionnelle elle n'est pas respectée comme elle se doit sur un terrain de foot amateur, et peut-être que oui, en effet, et ils sont venus, ils ont gagné, et ils ont tout repris, et ils sont partis. Et écoute, tant pis pour eux, ça se trouve... Attention, hein, c'est pas, je peux pas tirer des points sur la comète.
Là où je dis toujours, on ne rate jamais une occasion d'être élégant.
Absolument.
Mais si quand il va, effectivement... t'es très mal reçu, les mecs font tout pour te pourrir, machin. Je suis désolé, dans ce cas-là, t'as pas besoin d'être élégant.
Pas
besoin d'être élégant.
Merci, moi, les gars.
Et ça arrive souvent.
Ça veut pas dire ne pas se battre souvent comme il se
doit. Si en plus tu rajoutes des grêlons à tout ça.
À 7 les grêlons, c'est plus rare.
Merci Daniel, merci Jérôme, merci de l'accueil que vous m'avez réservé. Vous m'avez moins visité que prévu.
Oui, on était sages, j'avais beaucoup d'actu.
Exactement.
Tu pourras revenir un jour.
Merci beaucoup.
Un jour.
L'after revient demain avec Gilbert Dribois après Amiens.
Ah ouf.
Passez une bonne nuit.
Ciao.
Salut.
RMC Football Show, l'after foot.